L'alchimie est une chaste prostituée.
Soudain, la salle tomba dans la pénombre et les murs s'illuminèrent. Je m'aperçus qu'ils étaient recouverts aux trois quarts d'un écran semi-circulaire où on allait projeter des images. Lorsqu'elles apparurent, je me rendis compte qu'une partie du plafond et du pavement était d'une matière réfléchissante. Et réfléchissant étaient aussi certains des objets qui d'abord m'avaient frappé par leur grossièreté, les paillettes, la balance, un écu, quelques coupes en cuivre. Nous nous trouvâmes plongés dans un milieu lycoraqueux où les images se multipliaient, se segmentaient, se fondaient avec les ombres des assistants. Le pavement reflétait le plafond le pavement, et tous ensemble, les figures qui apparaissaient sur les murs. Avec la musique, des odeurs subtiles se répandirent dans la salle. Au début, des encens indiens, puis d'autres, plus imprécis, par moments désagréables. D'abord, la pénombre s'anéantit en une obscurité absolue. Puis, alors qu'on entendait un gargouillement glutineux, un bouillonnement de lave, nous fûmes dans un cratère où une matière visqueuse et sombre tressaillait à la lueur intermittente de grandes flammes jaunes et bleuâtres. Une eau grasse et gluante s'évaporait vers le haut pour redescendre sur le fond, telle une rosée ou une pluie. Et alentour flottait une odeur de terre fétide, un relent de moisie. J'inhalais le sépulcre, le tartare, les ténèbres, et se répandait autour de moi un purin venimeux qui coulait entre des langues de fumier, terreau, poudre de charbon, boue, menstrue, fumée, plomb, excréments, écorce, écume, naphte, noir plus noir que le noir même, qui s'éclaircissait à présent pour laisser apparaître deux reptiles, l'un bleu clair et l'autre rougeâtre, enlacés en une sorte d'étreinte, se mordant réciproquement la queue en formant comme une unique figure circulaire. C'était comme si j'avais bu de l'alcool en dépassant la mesure. Je ne voyais plus mes compagnons disparus dans la pénombre. Je ne reconnaissais pas les figures qui glissaient à côté de moi, et je les percevais telles qui voient des silhouettes décomposées et fluides. Ce fut alors que je me sentis saisi par une main. Je sais que ce n'était pas vrai, et pourtant, je n'osais pas me retourner sur le moment pour ne pas découvrir que je m'étais trompé. Mais je distinguais le parfum de Lorenza, et c'est alors seulement que je compris combien je la désirais. Ce devait être Lorenza. Elle était là, pour reprendre ce dialogue fait de frôlement, d'ongles rampants contre la porte, qu'elle avait laissée en suspens la veille au soir. Soufre et mercure paraissaient s'unir dans une chaleur humide qui me faisait palpiter l'aine, mais sans violence. J'attendais le rebis, l'enfant androgyne, le sel philosophal, le couronnement de l'œuvre au blanc. J'avais l'impression de tout savoir. Peut-être des lectures des derniers mois réaffleuraient-elles à mon esprit, peut-être Lorenza me communiquait-elle son savoir à travers le toucher de sa main, dont je sentais la paume légèrement moite. Et je me surprenais à murmurer des noms lointains, des noms qu'à coup sûr, je le savais, les philosophes avaient donnés au blanc, mais avec lesquels moi, peut-être, j'étais en train d'appeler anxieusement Lorenza. Je ne sais, ou peut-être ne faisais-je que répéter en moi-même, comme une litanie propiatoire, cuivre blanc, agneau immaculé, aibateste, alborache, eau bénite, mercure purifié, or piment, azoc, borac, cambar, caspac, cérus, cire, chaya, comme hérisson, électre, euphrate, ève, fada, favonius, fondement de l'art, pierre précieuse de Givinis, diamant, zibac, ziva, voile, narcisse, lys, hermaphrodite, ae, hypostase, ilée, lait de vierge, pierre unique, lune pleine, mer, huile vive, légumes, œufs, phlegme, point, racine, sel de la nature, terre feuillée, tévos, tincar, vapeur, étoile du soir, vent, virago, ver de pharaon, urine d'enfant, vautour, placenta, menstru, serviteur fugitif, main gauche, sperme des métaux, esprit éteint, suc, soufre onctueux. Dans la poix, maintenant grisâtre, se dessinait un horizon de roches et d'arbres secs, au-delà duquel se couchait un soleil noir. Puis il y eut une lumière à presque nous aveugler et apparurent des images étincelantes qui se reflétaient de partout, créant un effet kaléidoscopique. Les effluves étaient à présent liturgiques, religieux, je commençais à éprouver un mal de tête, une sensation de poids au front, j'entrevoyais une salle fastueuse couverte de tapisseries dorées, peut-être un banquet de noces, avec un époux princier et une épouse tout de blanc vêtue, puis un vieux roi et une reine sur le trône, à côté d'eux un guerrier et un autre roi à la peau sombre. Devant le roi avait été dressé un petit autel portatif où se trouvait un livre relié de velours noir et une lumière sur un chandelier d'ivoire. À côté du chandelier, un globe terrestre tournant sur lui-même et une horloge à sonnerie, surmontée d'une petite fontaine de cristal d'où jaillissait sans cesse une eau rouge sang. Sur la fontaine, il y avait peut-être un crâne, d'une orbite à l'autre rampait un serpent blanc. Lorenza m'allainait des mots à l'oreille, mais je n'entendais pas sa voix. Le serpent ondulait au rythme d'une musique triste et lente. Les vieux monarques portaient maintenant une robe noire, et devant eux étaient 6 cercueils couverts. On entendit quelques sons sourds de basse tuba, et apparut un homme encapuchonné de noir. Ce fut d'abord une exécution hiératique, comme si elle se déroulait au ralenti, et que le roi acceptait avec une joie dolente, inclinant, docile, le chef. Ensuite, l'encapuchonné abattit une hache, une lame, qui faucha l'air à l'allure d'un pendule, et l'impact de la lame se multiplia par chaque surface reflétante, et dans chaque surface, par chaque surface, ce furent 1000 têtes qui roulèrent, et à partir de ce moment-là, les images se succédèrent sans que je parvinsse à suivre l'événement. Je crois que peu à peu, tous les personnages, y compris le roi à la peau sombre, étaient décapités et installés dans les cercueils. Puis, toute la salle se transforma en un rivage marin, où rive lacustre, et nous vîmes accoster 6 vaisseaux illuminés, où furent transportées les bières. Les vaisseaux s'éloignèrent sur le plan d'eau, s'évanouissant dans la nuit, et tout se déroula tandis que les encens s'étaient faits palpables sous forme de vapeur dense. Un moment, je craignis d'être parmi les condamnés, et autour de moi, beaucoup murmuraient « Les noces, les noces !» J'avais perdu le contact avec Lorenza, et c'est alors seulement que je m'étais retourné pour la chercher parmi les ombres. À présent, la salle était une crypte, ou un tombeau somptueux à la voûte éclairée par une escarboucle d'extraordinaire dimension. Dans chaque angle apparaissaient des femmes en robe virginale, autour d'une chaudière à 2 étages, un castel au soubassement de pierre dont le porche avait l'air d'un four. 2 tours latérales, d'où sortaient 2 alambics qui se terminaient en une boule ovoïdale, et une 3e tour centrale qui s'achevait en forme de fontaine. Dans le soubassement du castel, on apercevait les corps des décapités. Une des femmes apporta une cassette, d'où elle tira un objet rond qu'elle déposa sur le soubassement. Dans un arc de la tour centrale, et aussitôt au sommet, la fontaine se mit à jaillir. J'eus le temps de reconnaître l'objet, c'était la tête du mort, qui maintenant brûlait telle une souche. Mettant en ébullition l'eau de la fontaine, vapeur, souffle, gargouillement. Cette fois, Lorenza posait sa main sur ma nuque, la caressait comme je l'avais vu faire furtive pour Jacopo dans la voiture. La femme portait une sphère d'or. Elle ouvrait un robinet dans le four du soubassement et faisait couler de la sphère un liquide rouge et dense. Après quoi, la sphère fut ouverte et au lieu du liquide rouge, elle contenait un œuf gros et beau, aussi blanc que neige. Les femmes le prirent et le posèrent à terre, dans un tas de sable jaune, jusqu'à ce que l'œuf s'ouvrit et qu'en sortit un oiseau encore difforme et sanglant. Mais abreuvé du sang des décapités, il commença à croître sous nos yeux et devenir magnifique et resplendissant. À présent, il décapitait l'oiseau et le réduisait en cendres sur un petit autel. Certains pétrissaient la cendre, versaient la pâte ainsi obtenue dans 2 moules et plaçaient les moules à cuire dans un four, tout en soufflant sur le feu à l'aide de tuyaux. À la fin, les moules furent ouverts et apparurent 2 figures pâles et gracieuses, presque transparentes, un jeune garçon et une jeune fille, pas plus haut que 4 empans, doux et charnus comme des créatures vivantes, mais avec des yeux encore vitreux, minéraux. On les posa sur 2 coussins et un vieux leur versa dans la bouche des gouttes de sang. D'autres femmes arrivèrent en portant des trompettes dorées, décorées de couronnes vertes, et elles entendirent une au vieillard qui l'approcha de la bouche des 2 créatures encore suspendues entre une langueur végétale et un amène sommeil animal, et il commença à insuffler de l'âme dans leur corps. La salle se remplit de lumière, la lumière s'atténua en pénombre, puis en une obscurité coupée par des éclairs oranges. Ensuite, il y eut une immense clarté d'aube, alors que quelques trompettes sonnaient hautes et retentissantes. Et il y eut un éclat de rubis insoutenable. À cet instant, je perdis à nouveau Lorenza, et je compris que je ne la retrouverais plus. Tout devint d'un rouge flamboyant, qui lentement s'estompa en indigo et violet, et l'écran s'éteignit. Ma douleur au front s'était faite insupportable. « Mysterium magnum, » disait Aglier, maintenant à voix haute et tranquillement à mes côtés. « La renaissance de l'homme nouveau à travers la mort et la passion. Bonne exécution, dois-je dire, même si le goût allégorique a peut-être influé sur la précision des phases. Ce que vous avez vu était une représentation, c'est normal, mais qui parlait d'une chose. Et notre hôte prétend que cette chose, il l'a produite. Venez, allons voir le miracle accompli.